Vous êtes sur RTL.
7h.
Vincent Parisot, RTL Matin.
Et Mathilde Romagnan pour les infos. Bonjour Mathilde.
Bonjour Vincent, bonjour à tous. Le début des Jeux Olympiques de Tokyo. Les premières épreuves sont en cours. On fera un point sur les chances de médailles françaises dans un instant. De plus en plus de clusters détectés sur les lieux de vacances. Les autorités sanitaires appellent à la vigilance. Et puis les restaurateurs, eux, se préparent à la mise en place du pass sanitaire. Dans les EHPAD, le personnel craint des licenciements en cas de non-vaccination.
RTL à Tokyo.
Boxe, tennis de table, judo. Les épreuves des Jeux Olympiques ont commencé cette nuit à Tokyo.
Et décalage horaire oblige, il fallait se lever tôt ou être insomniaque pour regarder les premiers pas des athlètes français. La toute première médaille d'or de ces Jeux a été décrochée par la chinoise Qian Yang en tir à la carabine. Et les Bleus alors, eh bien en handball en tout cas, ça commence bien pour eux, Quentin Vasselin.
Oui, victoire nette des joueurs de l'équipe de France, 33 à 27 contre l'Argentine. Le meilleur buteur de ce match, Melvin Richardson avec 7 buts. Ça tombe bien, son père Jackson Richardson sera votre invité, Vincent, tout à l'heure à
8h49. Il doit être content du fiston.
Absolument, absolument. La grosse performance de la matinée nous vient du judo. Luca Meredze est en demi-finale catégorie moins de 60 kilos. Le judoka de 25 ans, seulement 20e mondial, a nettement battu au premier tour l'Espagnol Garrigós, champion d'Europe en titre et candidat déclaré au podium. En quart de finale, Luca Meredze n'a fait qu'une bouchée de l'Ukrainien Artem Lesiuk. Sa demi est prévue en début d'après-midi, heure française. Elle est beaucoup plus triste. Shirin Boukli, championne d'Europe, battue d'entrée par la Serbe Milica Nikoli en moins de 48 kilos. À 22 ans, la judoka française espérait une médaille. Écoutez son désarroi au micro de France Télé.
J'ai pas pu m'exprimer comme je le voulais, j'ai pas pu faire ce que je voulais. C'est des sensations, je pense, qu'on n'est jamais prêt à aborder ou à avoir. Donc c'est assez particulier. J'ai pas forcément envie d'en parler, je comprends pas.
Le désarroi d'une athlète qui a préparé ces Jeux Olympiques pendant plus de 3 ans. Autre déception, en tennis, notre père de double chéri, Pierre Hugerbert et Nicolas Mahut, s'est incliné contre les Britanniques Andy Murray et Salisbury. Défaite sèche hein, en 2-7, 6-3, 6-2. Enfin, 9 membres du staff des basketteurs français sont considérés comme cas contact, mais pas de quoi remettre en cause le match de demain contre les États-Unis, selon les informations de l'excellente Isabelle Langer, qui est sur place à Tokyo.
Et Isabelle Langer, qu'on retrouvera d'ailleurs dans quelques minutes, après le journal. Merci beaucoup Quentin Vasselin. Dans la table à Langer, vous savez, c'est la nouvelle chronique d'Isabelle. Et là, ce matin, ce sera du volley-ball avec les Tilly, père et fils.
RTL Matin.
Alors, l'actualité, c'est aussi évidemment l'accélération du nombre de contaminations au Covid-19. Mathilde Romagnan, de plus en plus de clusters sont recensés.
Le nombre de cas a presque doublé en une semaine, 21 000 nouvelles contaminations en 24 heures. En Nouvelle-Aquitaine, le taux d'incidence a triplé en quelques jours. Juste à côté, en Vendée, l'Agence régionale de santé a détecté plus d'une vingtaine de clusters dans des campings. Dans l'Est de la France, 2 foyers de contamination ont été identifiés dans des boîtes de nuit, dans les Vosges et dans le Doubs. Et pour le professeur Gilbert de néphrologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, il faut fermer ces établissements.
Pour ces endroits-là si particuliers, on va se retrouver avec des centaines de personnes collées les uns contre les autres sans masque qui se hurlent dessus, c'est pas raisonnable. Quand on voit la vitesse avec laquelle le chiffre de contamination augmente, on se dirige vers 50 000 cas d'ici début août par jour. On n'est évidemment pas étonné que dans les lieux dits festifs, ça flambe parce que, comme en plus, on a effondré les gestes barrières mi-mai quand on a dit que l'épidémie était derrière nous. C'est logique, les Français ont levé la garde. Et deuxièmement, il y a des endroits comme les boîtes de nuit, il n'est absolument pas raisonnable de les rouvrir. Dans les hôpitaux, ça fait plus que frémir. On est en train de nouveau de mettre en place ces cellules de crise. Ça commence à rentrer. Et quand ça commence à rentrer, c'est déjà trop tard. Il faut prendre des mesures maintenant. Le masque en intérieur systématique et le vaccin obligatoire pour tous. Il va bien falloir qu'on décide à le faire. Et ce rétablissement des couvre-feux là où les zones sont explosives, c'est pas sympathique, mais c'est efficace.
Gilles Doré au micro d'Agathe Landais pour RTL. Face à la flambée de cas du haut variant Delta, le gouvernement va étendre le pass sanitaire au restaurant à partir de début août. En Haute-Corse, la mesure est expérimentée depuis hier soir dans 13 établissements test. Décision du préfet face à une hausse de cas sur l'île de Beauté due au tourisme estival. Ce restaurateur de Calvi promet une certaine souplesse pendant cette période d'expérimentation.
On a une semaine pour expérimenter, donc on a du temps. Si la personne n'a pas fait son vaccin, on ne va pas l'interdire. Je n'ai pas refusé les gens à consommer dans mon établissement. Mais à partir du 1er août, par contre, si les gens n'ont pas fait leur test et n'ont pas fait leurs 2 vaccins, là, ça risque peut-être d'être compliqué. Mais à aujourd'hui, il n'y a pas de complications.
Des propos recueillis par Laetitia Gianecchini. Le texte sur l'extension du pass sanitaire est en cours d'examen au Sénat après une adoption par l'Assemblée nationale. Et dans ce projet de loi, il y a aussi l'obligation pour les soignants de se faire vacciner. Ils ont jusqu'au 15 septembre pour le faire. Selon les syndicats, les délais sont trop courts. De nombreux soignants étaient en vacances. Dans cet EHPAD de Nanterre, dans les Hauts-de-Seine, le risque de sanctions plane sur le personnel, Valentin Boisset.
Oui, un risque de sanction qui fait l'objet depuis de débats dans les couloirs et à la machine à café.
J'ai pas mal de collègues qui sont contre le vaccin, j'en ai peur.
Martine Martin est infirmière dans plusieurs EHPAD du département. Elle n'a reçu pour l'instant aucune dose.
Je suis perdue. C'est le fait qu'à un moment donné, on dit oui, il n'y a pas de risque, puis après il y a un risque, puis pas de risque.
Pas anti-vaccin, mais pas assez de temps non plus pour réfléchir. La date fixée par Emmanuel Macron est le 15 septembre. Martine est aussi maman.
J'ai peur de me faire licencier, j'ai peur de avoir pas d'argent. En septembre, peut-être je ne vais pas respecter les délais et me retrouver bloqué sans argent.
Une enquête de la CGT sur le personnel des EHPAD des Hauts-de-Seine révèle un risque de démission en masse. Malika Belarbi est déléguée générale du syndicat dans la section santé.
20% ne se feront pas vacciner et souhaitent démissionner. J'ai eu l'occasion d'avoir un éducateur spécialisé qui ne souhaite pas se faire vacciner, qui va lui donner l'occasion d'être licencié grâce à cette campagne vaccinale obligatoire.
Ce qu'elle craint désormais, c'est une vague de départ alors que le personnel manque déjà dans le département.
Reportage de Valentin Boisset pour RTL. Notez aussi que là où le pass sanitaire sera requis au début du mois d'août, dans les restaurants, les bars ou les centres commerciaux, le personnel devra lui aussi être vacciné ou présenter un test négatif. Le maire de Nice, lui, n'attendra pas l'adoption du projet de loi pour imposer le pass sanitaire. Dès mercredi prochain, tous les enfants de plus de 12 ans accueillis dans les centres de loisirs de la ville devront présenter un test négatif ou un certificat de vaccination. Idem pour le personnel. Pour Christian Estrosi, cela fait suite à une montée de cas de Covid dans les centre d'accueil. En bref, la mère de deux fillettes retrouvées mortes près de Brest a reconnu hier être à l'origine de leur décès. Mercredi, les deux petites filles de 4 et 6 ans ont été découvertes sans vie à leur domicile par leur grand-mère. Selon le parquet, elles sont mortes par noyade.
Allez, courte pause et dans un instant, une scène assez croquignolesque mais inquiétante. Des automobilistes qui s'arrêtent sur la route pour ramasser des capsules Nespresso. What else ?
Vincent Parisot, RTL Matin.
Et la suite du journal avec ce nouveau week-end de chassé-croisé sur les routes. Ça veut dire qu'il va falloir se montrer patient et surtout prudent.
Oui, pas comme ces automobilistes jeudi dernier qui ont pris des risques sur une autoroute de l'Est de la France pour, je vous le donne en mille, ramasser des capsules de café étalées sur la chaussée. La faute à une collision entre deux poids lourds. L'un d'eux transportait les fameuses capsules et les plus imprudents se sont arrêtés pour aller en récupérer quelques-unes, Yannick Collin.
Oui, la scène a été filmée par des automobilistes très surpris. Nous sommes sur l'autoroute A35 entre Bâle et Mulhouse. Un accident entre plusieurs poids lourds vient d'avoir lieu et un des camions a perdu sa marchandise sur 500 mètres de long. Et sur la vidéo, on découvre de nombreux véhicules qui se sont arrêtés pour ramasser un maximum de cette cargaison qui scintille au soleil au milieu de l'autoroute. Ce trésor qui rend fou les automobilistes, ce sont des capsules de café. Des milliers de capsules de café d'une très célèbre marque éparpillés sur la chaussée et qui ont fait oublier les règles les plus élémentaires en matière de sécurité routière, avec des conducteurs qui se promènent à pied au milieu de l'autoroute pour glaner quelques expressos avec des véhicules qui continuent de passer. On a vraiment frôlé le suraccident et les secours ont fini par arriver et ont pu faire évacuer les accros à la caféine de l'autoroute A35.
Bon, en tout cas, accros à la caféine
ou pas.
Qu'est-ce
qu'on ferait pas pour un café ?
Oui, c'est vrai. Bison futé hisse le drapeau rouge aujourd'hui dans le sens des départs, et il faut le noter. Orange dans le sens des retours, le café sera donc peut-être de mise.
Bon, nous aussi on s'arrête, mais on s'arrête bien, voilà, sur un emplacement réservé, on va même mettre le frein à main.
Christophe Bourreau sur RTL, avec la prévention routière.
Voilà. Oui, car... Et pour arriver à l'heure sur son lieu de vacances, eh bien, c'est vrai que beaucoup sont tentés de rouler vite. Or, la vitesse, c'est toujours une cause d'accident importante.
Oui, un tiers des accidents mortels sont dus à la vitesse. Autrement dit, Christophe Bourreau, rien ne sert de courir, il faut partir à point.
Oui, alors qu'atypique pour attraper le temps perdu après un bouchon, on accélère. Pourtant, le temps gagné ne sera pas si important qu'on le croit. Exemple, si vous roulez à 140 km/h au lieu de 130 sur autoroute, vous gagnerez au final qu'un petit quart d'heure à l'arrivée. C'est finalement prendre beaucoup de risques pour pas grand-chose, selon Anne Lavaux, déléguée générale de la prévention routière.
Vous savez, on a beaucoup entendu « quand je roule lentement, je vais m'endormir ». C'est faux. La réalité, c'est que le risque de somnolence est le plus fort sur l'autoroute, parce que ça demande une telle concentration que finalement, l'organisme se fatigue.
Concentration qui se traduit par une diminution de notre champ de vision.
Quand on est statique, on a un champ de vision à 180 degrés. À 130 km/h, ça couvre seulement 30 degrés. Si vous roulez à 180 km/h, vous n'aurez plus qu'un tout petit faisceau de visibilité.
Et tout cela amplifie les risques, comme pour le freinage. Ainsi, à 50 km/h, vous avez besoin d'une trentaine de mètres pour arrêter votre voiture, mais près de 3 fois plus à 130 km/h.
Les conseils de Christophe Bourou.
Eh bien, évidemment, soyez prudents, surtout. Franchement, rien ne sert de rouler vite. Merci beaucoup.